A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Comment est-ce possible qu'un grand révolutionnaire puisse être accueilli et joué dans tous les théâtres de France et de Navarre? Mais tout est possible en fait au pays de Pippo Del Bono. Poésie, danse, musique, cinéma, photographie, théâtre. Et ce pays du possible a des codes bien à lui. Ça produit un cinéma indépendant, un théâtre et des performances qui relèvent souvent de l'expérience, le tout offrant comme un paquet cadeau une belle rétrospective de ses films au Centre Pompidou à Paris. Pippo Del Bono, c'est un nom qui dit forcément quelque chose, un nom d'humoriste, on dirait. Et pourtant, que ce soit derrière sa caméra, sur les planches ou dans ses installations, pas très loin de Pina Bausch ou de Sophie Calle, l'animal est plutôt dans une forme de don de soi. Sa joie, c'est de montrer le visage des martyrs et de nos exclus contemporains. Rien d'intellectuel chez Pippo Del Bono, que du sauvage culturel. Bienvenue Pippo Del Bono.
Salut.
Vous vous réveillez ou quoi?
Ouais.
Vous êtes même encore endormi.
Non, je me réveillais très tôt. Ça va. Ça va? Tout le monde en France, il dit ça va, et après ça, on va.
Exactement. C'est bizarre, ça va. Ce don de soi, qui est aussi un livre de confession que vous publiez chez Actes Sud, il vient d'où?
Je suis, comme vous avez dit, très sauvage. Alors je suis un... Les sauvages, ils ne sont pas humanistes. Les sauvages, ils sont des animaux. Quand j'écris des choses, j'écris en cherchant de suivre un peu le cœur, un peu la tête, un peu qu'est-ce qui te passe, un peu la société, un peu le malheur que tu as partout, dans la vie aussi, qu'est-ce qui passe autour de toi. Alors c'est plutôt ça. Où est la joie? J'écris dans mon dernier spectacle. Et... La dernière phrase qu'il a dit Goethe avant de mourir.
Qu'a dit qui?
Goethe.
Merci.
Il dit...
Faut parler au monde, entier, oui. Pippo Del Bono.
Où est la joie? Où est la joie? Quelque chose comme ça. Ah, il me l'a volé à moi, Goethe. Non, pour dire, c'est normal que tu aies des phrases, des paroles que tu prends comme référence. Mais jusqu'à maintenant, toutes les références, je les ai prises dans mon expérience aussi de lecture, de poèmes, de phrases, de musique. Tout peut entrer dans une création pour moi, un rêve, un ami, un perso, une histoire, une douleur, une mort, un texte, un poème, une musique, une chanson, un voyage, tous.
Alors il y a un ténor italien du XXe siècle, ouais, qui lui peut-être aussi avait un don de soi, c'était Beniamino Gigli. Ah ouais. Vous l'aimez bien hein, quand il chante Bizet.
C'est quoi Bizet?
Le compositeur.
Oui, ben, Bizet, le compositeur.
Comment vous dites, vous?
Bizet, c'est
pas pareil.
Vous me taquinez. Hein. Alors, ce nombre au tableau, quand même, j'ai regardé votre Beniamino Gigli. Il était apprécié de Mussolini, pour lequel il a même enregistré une version officielle de l'hymne fasciste Giovinezza. Vous le saviez, ça?
Non. Nous étions très ignorants. On a des très mauvais moments, parce que l'Italie, c'est un pays ignorant, dans le sens... plus profonde de la vie. C'est pas l'ignorance parce que tu connais pas toute l'histoire, toute la littérature, tu vas pas au musée, tu connais pas le cinéma d'avant-garde. Non, c'est pas ça. Que tu t'es fermé dedans de toi-même et tu regardes plus les autres. Ça, c'est l'ignorance.
Alors justement, à propos de se fermer aux autres, un petit bout de don de soi version Beniamino Gigli pour vous, en sol majeur.
Oh,
ça, Pippo del Bono?
Mi par di udire un po', nai, 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 mezzo ai fiori, la voce mia dolo, nai, 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 voilà.
Qu'est-ce que ça raconte?
Il parle de fleurs, il parle de l'amour. C'est bizarre parce que ces chansons, moi, je l'ai mis dans un spectacle qui s'appelle Henry V, qui est un peu ma version de l'Henry V de Shakespeare. Et lui, il y a tout des mortes dans ces scènes, et moi je marche sur ces mortes. Et il y a ces chansons de Beniamino Gigli qui parlent de la tragédie de la guerre.
Enfant de cœur.
Pour un sol majeur, plongeons-nous un peu dans les années 60 à Varazze. Vous êtes né pas loin de Gênes, donc en Italie, Pippo del Bono. Est-ce que gamin, vous étiez un genre d'enfant de cœur?
Oui, j'étais le plus jeune enfant de cœur de l'église. Je commençais à être enfant de cœur que j'avais 4 ans. Je faisais toutes les messes. J'étais vraiment fidèle.
C'était du théâtre pour vous?
Eh bien, c'est un peu déjà du théâtre. Après, je faisais aussi l'Enfant Jésus comme théâtre. Je commençais très petit à faire du théâtre. Je commençais à faire, oui, du théâtre. Je faisais de la musique. Je jouais l'accordéon quand j'étais très petit.
On peut vous faire écouter quelque chose en sol majeur, Pippo del Bono?
Absolument, oui.
C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse. Il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella...
Allora, franchement, Pippo del Bono, est-ce que l'enfant de cœur se souvient de quelque chose quand il entend ça?
La chanson carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti, di tutti i miei segreti, mi parlai, mi sognai.
Tout a été d'abord chanson hein, pour vous, on dirait.
J'aime chanter parce qu'il me fait bien pour ma tête.
Oui. Donc ça, Pinocchio, les chansons religieuses, tout ça, ça a été le premier décorum.
Pour
comme
moi,
ça,
la pour chanson, vous. Il me soulève des parts intérieures de moi, la chanson et la musique, qui sont des parts de l'inconnu, mais il me parle de l'âme. Moi, je pense que la musique, c'est la chose la plus démocratique qui existe au monde. On peut écouter les riches, les pauvres, les réfugiés, les noirs, les gitans, tout, on peut écouter de la musique. Aussi Bobo, qui est sourd, moi, analphabète, qui travaille avec moi, qui a 50 ans, il parle pas, mais il écoute la musique.
On reparlera de Bobo, c'est promis, il a sa place en sol majeur. Alors, je vous demanderai pas à quoi ressemblait votre premier concert lorsque vous aviez 4 ans, Pippo del Bono, on va laisser ça à la légende, mais à la question quel acteur vous êtes devenu, on trouve des éléments de réponse précisément dans ce livre de confession que vous avez intitulé « Le don de soi ».
Dans tous mes spectacles, je lis les textes au début. Je le fais aussi un peu pour paresse. Je n'avais pas envie de passer, comme font les acteurs sérieux, des heures et des heures d'apprendre le test par cœur. Je préfère rester des heures et des heures à regarder la mer. Et puis, avec le temps, le fait de lire est devenu pour moi fondamental, incontournable, parce qu'il me permet de n'être jamais un personnage, mais d'être toujours Pippo qui s'empare des mots d'un autre. qui devient ensuite inévitablement le sien. Et on ne sait plus si ce sont les miens ou ceux des poètes. Mais cette façon, cette distance de la lecture, feuille à la main, me fait ressentir une façon d'être, un acteur plus lucide, plus consciente, plus vrai peut-être.
Merci Pippo Del Bono pour cet effort inouï que vous faites, dont je ne serais pas capable en italien. C'est vrai, c'était un extrait du Don de soi. Ah ben voilà, ça commence comme ça le Don de soi pour un sol majeur. Et donc, si je comprends bien, l'acteur qui reste Pippo Del Bono sur scène, est-ce que finalement il ne se console pas de ne plus être le petit Jésus, puisque ça a été votre premier rôle, le petit Jésus?
Mais vous savez, il y a tout le temps un parcours dans cette histoire d'artiste. Moi, je me sens tout le temps un peu comme quelqu'un qui recommence pour la première fois. Il y a tout le temps la sensation que tu ne sais rien, tu ne sais rien. Et pour moi, il n'y a pas de différence quand je faisais l'enfant Jésus ou quand je fais maintenant le dernier spectacle La Joie ou quand je suis à Pompidou à voir ces choses qui sont très belles, cet hommage qu'ils m'ont fait avec un grand amour, amour surtout. Alors moi, je me souviens quand j'étais petit que je faisais l'enfant Jésus, je trouvais dans le théâtre un grand lieu d'amour. Et alors je cherche plutôt ça, des lieux d'harmonie pour retrouver mon harmonie. Et alors, si je ne trouve plus harmonie à faire de la pizza, moi je viens faire de la pizza. Moi, ce n'est pas une blague, je le dis sincèrement.
C'est sérieux la pizza, je suis d'accord.
Mais je ne suis pas trop capable de faire la pizza, je préférerais faire la pasta, je ne suis plus. Mais je pourrais apprendre.
En tout cas, les origines de cet amour que vous mettez dans le théâtre, ces origines sont à rechercher du côté de votre mère. C'est une figure essentielle pour vous, Pippo Del Bono. Qu'est-ce que vous diriez de la mamma?
Il me ressent déjà de faire des rencontres psychanalytiques.
Ouais.
Oui, maman, qu'est-ce que j'ai... Alors, maman... Ben, maman, c'était plutôt important dans tout le parcours de ma vie. Parce que ma mère, elle m'a donné des choses importantes, elle m'a mis bloqué. Parce que ma mère, c'est une ultra-catholique, par exemple, ultra-moraliste. Alors, tous les grands murs que je me retrouve maintenant à 59 ans, il arrive de maman. Merci, maman. Mais je suis pas trop lié à la version psychanalytique freudienne, jungienne. Oui, moi aussi, je pourrais faire un parcours. Ma mère, elle m'a fait du mal, mais m'a fait aussi du bien. S'il n'y avait pas ma mère, moi, je ne serais pas un artiste.
Des fois, quand vous ne seriez pas l'artiste transgressif que vous êtes si elle n'avait pas été aussi catho et aussi moraliste.
Oui, parce que des fois, quand ma mère elle est morte, il y a une chose qui m'a beaucoup touché. Mais elle connaissait tout, elle était la maître du village, c'était le chef moral. Et une personne est venue, une fois, elle m'a dit, votre mère, elle était un grand personne quand elle était au funérailles, parce qu'elle, une fois, elle m'a dit, moi, je dis à mon fils de faire des choses, mais lui, il a fait complètement le contraire de tout ce que je lui ai dit. Il est arrivé à le faire. Et alors, je ne suis pas fier de mon fils comme ça, mais je suis orgueilleuse parce qu'il est réussi en contraire à tout ce que je lui ai dit de faire. Et ça, je l'ai trouvé, il m'a fait pleurer cette histoire, parce que c'est une histoire que tu dis, maman, tu vois.
B comme Bible.
Pourquoi pas un spectacle sur l'Évangile? C'est ce qu'a dit votre mère Pippo Del Bono et c'est presque la note d'intention de votre film Vangelo. Ça va?
Oui.
Ah bon? Tout à coup j'avais l'impression que vous n'étiez pas bien.
Oui, j'ai des moments que je suis un peu perdu.
Alors, on est sur Vangelo, sur votre film. Alors, donc, sur cette note d'intention, puisque c'est votre mère qui vous a quasiment soufflé l'idée de ce film, qui a été présenté, je le dis quand même pour les auditeurs du monde, au Festival de Venise, sur la chaîne Arte, et puis au Louvre. Et la question que vous vous posez à vous-même dans ce film, c'est pourquoi faire un film sur l'Évangile si vous ne croyez pas en Dieu ?
Je vous avais trouvé perdu parce que quand vous me faites la question pourquoi, c'est me mettre en crise. Moi, je ne sais pas le pourquoi. Je suis quelqu'un qui a des problèmes avec le pourquoi. Peut-être c'est mieux que d'aujourd'hui. Maintenant, je me commence à demander plus pourquoi.
Comment je vais faire?
Je sais. Je pourrais dire, comme il avait dit Hitchcock, quand il en demandait, mais pourquoi, monsieur Hitchcock, tout le temps vous parlez d'histoire tant. Et il dit, je ne sais pas. Hitchcock, peut-être parce que quand j'étais dans la berceille, quelqu'un il est arrivé et m'a fait bouh. Vous avez compris ou non?
Je crois.
Pourquoi vous m'avez pas compris? Et parce que
vous voyez,
ça,
vous voyez,
oui,
que vous vous y mettez. Hein.
Mais non, pourquoi? C'est important ces choses-là. Il y a le pourquoi cartésien que des fois je rejette, moi. Je veux pas. Pourquoi on va naître? Pourquoi on va mourir? Je sais pas le pourquoi. Mais je vais dire, je crois que j'ai eu la sensation physique. C'est un moment que je devais parler de ces questions-là. Quand je commence pas dans les pourquoi, vous comprenez? Je commence comme un gâteau, je commence comme un enfant. Et après, tu vas comprendre pourquoi. Au début, tu les fais comme un acte de foi.
Oui.
Foi, quand je dis amour, attention, c'est une parole très dangereuse. C'est l'amour, là, 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 je t'aime, tu m'aimes pas. Non, non. Je dis quelque chose d'une énergie qui existe, secret, entre les personnes qu'on existe dans le monde.
Mmh. Alors, je retrouve bien votre film quand vous le présentez de cette manière, La Pipo del Bono. Je vais juste donner une image pour les auditeurs qui n'ont pas vu Vangelo. Vous vous filmez avec un simple téléphone, lorsque vous êtes hospitalisé en neurologie pour une maladie des yeux, vous avez l'air inquiet, vous rappelez votre séropositivité, et puis vous réfléchissez à cette idée de faire un spectacle sur l'évangile, comme vous l'a demandé votre mère. Mais là, vous vous posez la question de savoir s'il faut faire ça dans un vrai théâtre, avec votre compagnie, où il y a des gens bizarres, comme vous dites, et vous commencez à douter, vous dire que finalement, faire comme ça dans un théâtre, ce serait faire un évangile des riches, c'est-à-dire.
On doit être honnête. Là, je peux répondre au pourquoi. Pourquoi, oui. Non, c'est vrai, je m'excuse, j'ai des choses que j'ai de pourquoi. Pourquoi je pense que le théâtre, il est fait seulement pour les riches. Ok, moi je voudrais faire du théâtre, oui, pour les riches, pourquoi pas, moi aussi je suis un peu riche. Mais pour les riches, pour les blanches, mais pour l'Africain, pour les réfugiés, pour les gitans. Et non, c'est notre objectif. Nous, c'est les seuls, en ces moments-là, qu'on pourrait chercher de faire un théâtre qui l'ouvre. Artaud disait, je fais des théâtres pour sourds et les analphabètes, tous ces gens-là qui appartiennent à des autres choses.
Mais alors,
mais c'est difficile.
Si vous ne voulez pas faire un évangile des riches, comment on fait un évangile des pauvres?
L'évangile que j'ai fait avec les réfugiés, c'est un évangile, on peut dire, des pauvres. Dans le sens que, Vangelo, il y a des petits moments que je suis moi avec un petit caméra. Moi j'aime le cinéma, alors j'aime les couleurs, oui. C'est la poésie. Vangelo, c'est un film des peintures.
Alors, cet évangile des pauvres, vous le construisez, Pipo del Bono, donc au milieu de ces réfugiés que vous approchez dans une maison d'accueil, j'imagine, en Italie.
Oui.
Ces réfugiés dont vous dites que ce sont des gens venus de la douleur.
Oui.
Et à un moment donné, vous les disposez, ces réfugiés, en cercle, autour de vous, disant un extrait de l'évangile.
Si soulevera, infatti, azione. Contro nazione, regno contro regno, e saranno terremoti in diversi luoghi, e saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Voi badate a voi stessi. Consegneranno ai sinedri. Sarete percossi davanti ai re, ai governanti. Vi tortureranno e chiederanno di parlare.
Extrait en sol majeur de Vangelo avec vous, Pipo del Bono. Je vais traduire cet extrait d'évangile que vous dites. C'est magnifique. En même temps, vous dites « Et on se lèvera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre. On vous livrera aux tribunaux. On vous torturera. Le frère tuera son frère. Le père tuera son fils. Vous serez détestés de tous à cause de votre foi. Et tout à coup, on entend l'évangile d'une autre manière au milieu de ces réfugiés.
Un prêtre jésuite, qui c'est un prêtre italien, qui était ami, très ami de Pasolini et aussi de Rossellini, il m'a dit que moi j'ai donné l'évangile, le seul sens qui se peut donner aujourd'hui, que tu mettes sur la bouche, tu mettes à côté de ces gens-là le sens profond de le message chrétien.
Et vous cherchez à remettre la religion dans la bonne voie?
Moi, je ne peux pas dire rien parce que moi, j'ai pratiqué qu'il y a beaucoup 30 ans, le bouddhisme.
Et bon, oui, mais il y a des actes chrétiens qui ne relèvent pas forcément du dogme. Et ça, c'est un acte presque chrétien, c'est ce film Vangelo.
Oui, Vangelo, moi, je suis dans l'acte chrétien. Il y a des paroles dans le Christ qui sont pleines de révolutions. Quand le Christ il dit seulement la vérité. Il les rendra libres. Alors bon, qu'est-ce que c'est, c'est extraordinaire. Seulement la vérité, il les rendra libres. Et je crois que ces gens-là, ils amènent une double chose. L'humanité de l'évangile, et en même temps, ils redonnent la beauté des yeux, du regard, d'être là. Mmh. Les gens, ils envisagent quelque chose que tu dis. Sont acteurs extraordinaires.
La scène suivante de cet extrait qu'on vient d'écouter en sol majeur, vous filmez Pippo Del Bono, un réfugié qui se retrouve dans la mer et qui répète après vous cette phrase « Je n'ai jamais vu un homme marcher sur l'eau, j'ai seulement vu un des hommes couler dans l'eau, se noyer, mourir dans l'eau ». C'est fou parce que j'ai vu ce film et puis il y a quelques jours j'ai... vu que tout récemment le ministère de l'Intérieur italien dirigé par le leader d'extrême droite Matteo Salvini venait d'ordonner l'évacuation des migrants d'un village de Calabre qui les avait accueillis et ce village était d'ailleurs présenté comme un modèle d'intégration. Vous qui ne croyez plus au miracle, là le miracle ce serait quoi?
Ben là c'était une histoire un peu extraordinaire, un homme qui l'a pensé d'échanger réellement, sérieusement en histoire. Et ils ont attaqué mon pays, comme on vous a dit, il y a un nom d'extrême droite. C'est un pays qui est devenu totalement de droite. Ils sont tous dans un mécanisme très dangereux. Là, il y a besoin de demander des pourquoi.
Et ce serait quoi alors, les bons pourquoi?
Le pourquoi, parce que maintenant, les réfugiés sont seulement des pauvres qui sont utilisés, évidemment, pour recréer des formes d'États qui se mettent, la France contre l'Italie, l'autre contre l'autre, l'autre contre l'autre. Alors, je ne prends 2000, toi tu ne prends, non, tu te les donnes, moi je te les donne. Ils vont recréer des murs, totalement des murs. Et tous, on se peut demander pourquoi on fait des murs, pourquoi on utilise les réfugiés. Les réfugiés, on les use pour recréer des formes, des murs. Les murs, c'est dictature. La dictature, il divise. Si tu divises, qu'est-ce que tu fais? La guerre. On oublie totalement qu'est-ce qu'il est passé dans notre histoire. Ils m'ont dit qu'en Allemagne, le 40% des jeunes qui ne savent pas qui c'est Hitler. Ça, c'est atroce.
40% des jeunes Italiens ne connaissent pas Hitler.
Non, en Allemagne.
En Allemagne, pardon.
Oui, mais non. 40% en Italie, je pense, les 80%, ils ne savent pas qui sont Hitler et ni Mussolini. Mais moi, je parle de l'Allemagne, qui représente encore quelqu'un qui l'a réfléchi. Alors, quand on nous oublie notre passé, il est très, très dangereux. Alors là, oui, bienvenue, les pourquoi. Pourquoi maintenant il y a des mêmes mécanismes? Et les réfugiés, moi je ne fais pas, sont tout bons. C'est ni les gens comme Salvini qui le veut jeter, mais ni les pauvres. C'est comme lui en Italie qu'il a fait un village pour donner à eux une façon d'être. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit, les vieux du village? Comment on fait sans les réfugiés? On reste seul. Là, c'est magnifique. Il me ressemble en poésie de Cavafis qui disait « Où sont les barbares ?» Et maintenant que les barbares sont partis, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ça, je le trouve magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, nous, sans les réfugiés?
Et pour vous, qu'est-ce qui se passe de fondamental quand vous êtes au milieu de ces réfugiés, surgis de la mer? Qu'est-ce que vous devenez, vous, en face d'eux?
Moi, je ne sais pas. J'ai eu un parcours après ça. Je suis devenu un peu réfugié, plus que les réfugiés, j'ai dit la vérité. Je me suis un peu laissé abandonner. Je me suis un peu brûlé. J'étais passé des choses dans ma vie. Et maintenant, je cherche de me reprendre avec un peu de lucidité. Qu'est-ce qu'il a ? Je suis resté beaucoup touché de la situation. Il m'a fait du mal.
Alors, c'est le moment d'introduire dans votre En sol majeur la voix d'Antonin Artaud, ce grand acteur, théoricien du théâtre qui a souffert dans sa vie pour de vrai de douleurs physiques à cause de la syphilis et qui a subi de nombreux électrochocs. Ce sont des souffrances qui ont eu de multiples résonances sur sa créativité.
Aliénation et magie noire. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé.
Ceux qui vivent, vivent des morts.
Entre aliénation et magie noire, bienvenue sur RFI pour En sol majeur. La voix d'Antonin Artaud pour vous, Pippo Del Bono, c'est un document France Culture. Artaud qui disait aussi « Sans un élément de cruauté à la base, le théâtre n'est pas possible. Dans l'état de dégénérescence où nous sommes, c'est par la peau qu'on fera rentrer la métaphysique dans les esprits. » Il disait ça en 1932. Vous le pensez aussi, Pippo Del Bono ?
Moi, je suis... Moi, je suis dans un moment de ma vie qui... Je suis dans un moment que je suis très proche de cette expérience et je n'ai pas la honte de le dire. J'ai traversé un moment plutôt important de dépression, d'angoisse très forte. Je me suis retrouvé dans des moments très durs, à crier dans la rue, à avoir peur parce qu'il m'a commencé l'angoisse. Et... Pourquoi vous me regardez avec les yeux, vous avez peur?
Je suis non, pas mais là. J'essaye de tout comprendre ce que vous dites, Pippo Del Bono. Je suis concentré, c'est tout.
Okay.
Est-ce que vous allez dire un mot de cette installation qui s'appelle le mental qui ment? Voilà.
La mental.
L'installation.
Alors, l'installation
au Centre Pompidou.
Au Centre Pompidou, c'est ça. C'est comme un voyage dans cet moment de douleur. On peut dire des grandes douleurs, évidemment, mais des peurs, des perdus. De certains éléments de la tête. Et alors, l'agent, il entre.
Qui c'est qui rentre ?
Le public. Il entre. Si j'ai choisi d'apprendre le français, vous êtes ma professeur. Merci. Merci, parce que je n'ai pas trop. Les gens, le public, il entre. Il fait le voyage, qui c'est un parcours, qui d'un moment, il touche la douleur, il touche l'angoisse, il touche la peur, il touche les cris, mais il touche aussi. Des moments de vie, des moments où je parle de la foi, je parle des espoirs. C'est un peu un parcours un petit peu chamanique.
Donc vous êtes votre propre matière théâtrale.
Oui, je suis en haut de vous, hein, comme un enfant. Et moi, je commence les premiers pas. Hein. Une autre docteur entre les mille que j'ai rencontré me dit « Tu dois marcher comme un enfant, que tu dois sentir chaque pied. » Chaque pied.
C'est le moment de nous parler de vos analphabètes chéris, les trois qui font partie de votre compagnie, et notamment de Bobo. Donc je le présente pour nous qui ne le connaissons pas. Il est sourd-muet, il est microcéphale, c'est-à-dire que sa boîte crânienne est plus petite que la normale. Et il a fait de longs séjours en hôpital psychiatrique. Et Bobo, c'est surtout pour vous, Pippo Del Bono, votre maître en matière de jeu. Pourquoi ?
Bon, à part tout ça, bon, c'est pas bien. Les microcéphales, c'est déjà en catégorie trop clinique. Bon, la voix, c'est petit, mais l'intelligence, il est exceptionnel.
Mais qu'est-ce qu'il vous permet, vous, théâtralement ?
Bah, Bobo, il m'a donné l'incompréhension du théâtre. Pourquoi Bobo ? Il est devenu protagoniste de tous mes spectacles, de beaucoup, de presque tout mon film, l'opéra lyrique. Il était dans l'opéra lyrique. Bobo, il a fait des révolutions extraordinaires. Il est Madame Cavalleria Rusticana. Il est, lui, figurant protagoniste. Dans Mozart, il devient un vieux Mozart. Qui dit, c'est Mozart vivant, parce que lui, c'est un transformiste. Et Bobo, il m'a fait la passion de Bach. Et Bobo, il chantait Bach, enfin, au théâtre Massimo di Palermo.
Mais c'est quoi la révolution, là ? Bobo chantant Bach, c'est quoi, révolutionnairement parlant ?
C'est que Bobo, il amène dans Bach, dans le dernier morceau, c'est pas qu'il chante Bach. Il fait son petit voix et il donne des couleurs, des petites distorsions qu'il donne à Bach, à l'humanité. Quelque chose dans sa voix qui te parlait de l'humanité de Bach. Comme Bobo qui te parle de Mozart. C'est un petit homme qui est analphabète, il est sourd-muet, il a vécu 47 ans dans un hôpital psychiatrique.
Il y a une vérité en lui.
Il y a une capacité en lui, il y a une beauté, il y a un humorisme, il y a tout dans
vous embrasserez Bobo pour nous, bon, s'il
Bobo
vous plaît,
c'est
Del Bono.
Génie.
Autre traversée dans votre cinéma, où là vous jouez pas d'ailleurs, vous êtes un témoin en immersion, c'est dans votre film Paola, on dit comme ça ? Vous pouvez me corriger. Hein.
Paura.
Merci.
Déjà, c'est pas très bien.
C'est
hein.
Pas très bien. Hein.
Paura.
Paura.
Après, c'est déjà Pippo Del Bono. C'est Pippo Del Bono.
Voilà, 15 partout. La
déjà
peur.
Del Bono.
La
hein.
Peur en français.
La peur.
Film qui commence donc avec un reportage sur l'obésité infantile. Et puis votre caméra s'amuse juste derrière à filmer les salles de sport, là où on essaye de rester mince et le cœur jeune. Et puis votre œil ne loupe pas ces SDF qui dorment sur des bouches d'égout. Et puis hop, la caméra atterrit sur des murs de la ville avec des slogans racistes vis-à-vis des musulmans et de ces nègres de merde, je cite. Tout ça est contrebalancé par un fait divers en 2008 à Milan. Où un père et un fils tuent un homme de couleur pour avoir volé des gâteaux dans le magasin. C'est pas tout ça, mais il y a quoi à la télé ?
L'amico Antonio Marrone comincia con la pecora. Mbè, 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 capretta.
Et vous voilà, Pippo Del Bono, devant le drame à l'italienne, la télé italienne. Qu'est-ce qui se passe dans votre poste de télé ?
Bah là, bon, si en français, on pourrait parler aussi de la France.
Absolument.
Il y a fond de racisme aussi ici. On ne peut pas faire une généralisation, sinon banaliste. Mais en Italie, on a touché le fond. Parce que nous, on est tout le temps à l'avant-garde. Et là, par exemple, c'est des moments que je reprends à la télé, qui prend des gens très humiles et les font ridiculiser. Par
exemple, donc là, ils imitent des
animaux. Mais c'était, tu ne donnes pas la dignité de l'être humain. C'est un homme pauvre. Peut-être il a donné 50 euros. Mais après, j'étais dans un funérailles à l'Italie qu'il avait tué un Africain. Il avait volé des biscuits, il l'a tué. Et moi, j'étais à ses funérailles. Et je pensais qu'il y avait tous les politiques, tous les prêtres de la gauche. Rien, rien. C'était presque le seul avec une caméra. Je suis entré dans ces funérailles qui me regardaient avec un grand respect. Et il y a un moment qu'une fille est blonde, il me dit « Ah, tu peux pas prendre, tu vois qu'il souffre un peu. » Mais à un moment, il arrive un policier, il me dit « Oh, vous ne devez pas faire ça, hein ?» Allez, je le regarde. Et je dis, enfin, il avait un visage très beau, et je dis, non, je le veux faire, parce que ça, c'est un pays raciste. L'Italie, c'est raciste. C'est fasciste. Où sont les prêtres? Où sont les, la gauche? Pourquoi il n'y a aucune personne? Et à ce moment-là, ces policiers, ils s'arrêtent. Moi, je suis un peu double, trop double, bipolaire, tripolaire, je sais pas quoi, je suis trop, quatre polaires.
Vous êtes bien diagnostiqué, en tout cas.
Tripolaire, tripolaire. Et là, il arrive un Africain derrière, et cet homme, il s'arrête, ces policiers. Il commence à regarder dans la caméra. Et tu sens une humanité, ça c'est devenu le poster. Et alors, la paura, c'est déjà une forme de racisme. Terrifiant.
Dov'è per lei la casa?
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où?
Ça, c'est la question plus difficile que vous pourrez faire. Parce que moi, le problème ces dernières années, c'est que j'ai perdu ma maison. Alors, à un moment, je me suis abandonné. J'ai vécu aussi avec les réfugiés. J'ai des lieux que je pourrais vivre. Je ne sais pas où je veux vivre. Quelqu'un m'a dit, tu l'as ici, dans ton corps, ta maison. Mais si demain, je trouve quelque chose que je dis, bon, je reste à Paris, je reste à Paris. Je reste à Rome, je reste à Rome, je reste à...
Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le travail? C'est l'amour? Ah, vous avez l'œil qui...
Il me verrait de dire l'amour. Il me verrait de dire l'amour.
Ça se voit.
Cette phrase que
vous arrivez à être amoureux en une seconde. Hein.
Oui, j'arriverai à dire l'amour parce que j'ai la tendresse, je ne sais pas quoi.
Vous avez le cœur à droite?
Oui, le cœur, je touche le cœur. Plus que le travail. Non, le travail, non, je ne crois pas que j'arriverai jamais pour une chose de... Non, le travail, moi j'aime beaucoup travailler en France, moi j'aime beaucoup, ici j'aime beaucoup. Alors par exemple, je ne vis pas ici.
Mais vous, le génois qui parlait brillamment en français, c'est vrai. Non, mais je vous taquine depuis le début de l'émission, mais vous parlez magnifiquement. Vous pensez être au carrefour de combien de cultures, vous ?
À trop, je n'ai pas compris cette fois-là.
Ah, voilà.
Et voilà.
C'est notre limite.
Vous m'avez dit
ciao,
une chose bien.
Bono.
Trop carrefour, le carrefour, c'est le qui vend la pasta.
Au croisement.
Carrefour, c'est, tu vois que j'ai délicieux.
D'accord.
Ah, les trois, vous pensez à trois ?
Culture. Au carrefour de combien de cultures vous pensez être ? Vous avez vécu un peu partout hein, en Europe. Vous avez une petite vie, une longue petite vie déjà. Derrière vous, 59 ans, vous avez, vous avez habité... Oui, vous savez, vous avez 59 ans. Bon. Vous avez habité au Danemark, en Amérique du Sud, au Pérou, en Argentine, en Allemagne pendant la période Pina Bausch. Et puis vous avez même traversé un petit peu l'Afrique. Vous avez été en Namibie, au Sénégal. Comment est-ce que vous traversez ces différentes régions du monde ? Est-ce que vous êtes comme une éponge ? Vous vous laissez imprégner par tous les codes et toutes les identités que vous croisez, ou bien vous restez le pipeau de Gênes ?
Maintenant, on doit parler de deux pipeaux. Il y a deux pipeaux. Il y a un pipeau qui voyageait, qui s'est perdu beaucoup dans les voyages, dans les théâtres, dans les succès, dans les shows, dans les jeux. Et il y a un pipeau, c'est pas important où ils vivent, mais il se doit demander pourquoi, pipeau, tu es arrivé à certains moments que tu t'es perdu. Pourquoi, Pipo ? Pourquoi tu vis ? Pourquoi tu fais du théâtre ? Pourquoi tu te perds tellement que tu peux devenir complètement fou ? Pourquoi, Pipo ? Il y avait un homme qui avait tout, il avait les soucis, la maison à la mer, la maison à la montagne, mais il est complètement devenu triste et triste.
Mais est-ce que ce n'est pas votre conviction profonde que l'être humain doit ne rien avoir, ne pas être dans l'avoir, mais dans l'être.
Oui.
Et vous l'avez peut-être appliqué de façon radicale.
Oui, moi je pense que c'est ça. Moi, ce n'est pas important qu'est-ce que tu as. Être, c'est que tu donnes un sens, on peut dire mission. Ma mission ne signifie pas victime. Mission, c'est un sens profond de faire quelque chose pour changer un petit peu ce monde qui tombe vers la destruction.
Quand vous allez en Afrique, en artiste, en homme de théâtre, en Casamance par exemple, au Sénégal, et que vous jouez un spectacle qui évoque l'homosexualité, là la mission c'est quoi ?
Il y avait bizarre, parce qu'à la fin du spectacle, tout le monde me disait « Vous êtes marié, vous avez des fils ?» J'ai dit « Bon, ça va, je lui parle aussi de mon sexualité, pourquoi tout le monde me demande si je suis marié, si j'ai des fils ?» Alors j'ai fait une rencontre avec les artistes, j'ai dit « Mais pourquoi ? Il y a la seule question que vous me demandez, c'est ça. » Et là, c'était intéressant, parce qu'évidemment, tu touches des éléments, comme on parlait des sida. Les sida, ils disent « Non, ils n'existent pas ici, bon. » Et tu touches des éléments qui sont des tabous. Alors, basta, moi, j'ai dit, j'ai fait seulement ça, je ne voulais pas faire la missionnaire, que je vais à la non, je ne sais pas ça, la mission. Le sens que je parle de mission, c'est le sens profond de vivre. Pourquoi tu vis ? Pourquoi on vive ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ?
Est-ce que vous êtes moins perdu quand vous êtes loin de chez vous ?
Eh bien, je ne sais pas où c'est chez moi. C'est ça le problème maintenant. Où c'est chez moi ? Je ne sais pas. Ma voiture, elle est pleine de choses parce que j'amène tout, parce que je ne sais pas où j'habite. C'était un peu comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a le monde entier dans votre voiture ?
Tout, il y a tous dedans. C'est plein de choses, la voiture. C'est comme un magasin.
Beati per tempici di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi, mentendo per causa mia. Godete ed esultate, perché grande è la ricompensa vostra nei cieli. Così perseguitarono i profeti che vi precedettero. Chi tra voi, se il figlio gli chiederà pane, gli darà un sasso? O se gli chiederà un pesce, gli darà forse un serpente?
Elcon, labirinto.
Là, notre coin. Ah oui, nous avons l'air conditionné partout. Et il faut que je vous dise, tous les plans ont été dessinés à l'usine de mon mari. Oh, ben c'est original. On peut s'asseoir.
Je vous en prie, c'est pour ça.
Voilà, alors quand on ouvre la cabeça de Pipo Del Bono, qui est complètement perdu, voilà ce qu'on peut notamment y trouver. De l'Évangile, encore et encore, version Pasolini, du Raikouder dans Paris, Texas, et du bruitage façon Jacques Tati. Et je vais vous poser pour la dernière fois cette question magnifique.
Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, là, j'ai totalement... Pourquoi ?
Pipo.
Pasolini, il y a extraordinaire, Enrico Maria Salerno, qui c'était une des plus grandes acteurs italiens, que moi j'aime pas trop les acteurs quand ils sont, tout le monde ici connaît Carmelo Bene. Oh, perché? Tout le monde connaît Carmelo Bene, même pas ennuyé. Ils sont connus, si c'est bien, mais il y a beaucoup de choses. Oh, vous faites déjà les visages, oh, Carmelo Bene, tout
ça. Bah, je fais le visage que je veux, hein,
oui,
que je peux aussi.
Mais
hein.
Ça va, mais c'est plus exagéré, les choses sont plus exagérées. Mais il y a des acteurs en Italie extraordinaires, comme Enrico Maria Salerno, qui n'est pas connu. Mais quand Pasolini, il a mis sa voix sur le visage de lui qui faisait les Gesù, et qui c'était pas un acteur, c'était un étudiant qui voulait faire un stage sur lui, et lui, il parle sans dire rien, avec la voix, « Beati poveri di spirito, perché di essi il regno dei cieli », un peu rhétorique, je trouve qu'il y a un mixage magnifique, ses voix un peu rhétoriques avec ses visages vrais, sans aucune chose. Bon, la deuxième chose, c'est Ray Coudert, non ? Ray Coudert par les textes, pour moi, la première acte est par les textes, ça, c'est une chose extraordinaire. La troisième chose, c'est une chose que moi j'adore, c'est Jacques Tati. Et là, c'est mon oncle. Et là, c'est le surréalisme. Il me fait rire seulement, écouter le son. Pom, pim, pom. Et en même temps, c'est une anticipation extraordinaire de ce qui passe maintenant. Il me fait rire, mais en même temps, il y a une vérité, il y a tous dans cet homme. Il y a la danse, c'est la chorégraphie tout le temps, puis il y a de la danse.
Et c'est la chorégraphie de quelqu'un qui est perdu tout le temps.
Hein. Perdu, Jacques Tati, il est perdu. Il ne sait jamais où il est, il ne sait jamais qu'est-ce qui passe. Oui, je m'identifie un peu avec Jacques Tati, surtout, il s'est perdu.
Mais bref, c'est l'idée du labyrinthe mental qui guide vos créations, Pippo Del Bono.
Ah ouais, c'est le labyrinthe mental. La création qu'il est au Pompidou, c'est un peu ça. C'est un homme qui s'est perdu. On pourrait appeler aussi labyrinthe mental d'un homme qui s'est perdu. Il pourrait être le sous-titrage. Un homme qui s'est perdu. Et il cherche une façon de se retrouver. C'est ça. Tu vois, il y a tout le temps des pourquoi. Pourquoi il y a Jacques Tati, qui s'est non perdu. Il y a Wenders, qui s'est non perdu. Et pourquoi pas, il y a aussi un Christ perdu, parce qu'il est là à dire des choses avec des gens qui ne comprennent pas. Peut-être les trois, ils sont un peu les fous de Paris, Texas. Jacques Tati, comique, drôle. Et les hommes qui cherchent une vérité spirituelle plus profonde. Qu'est-ce que tu as, mais de qu'est-ce que tu es ? C'est important ces paroles. C'est pas important plus pour qu'est-ce que tu as. C'est important qu'est-ce que tu es.
En sol majeur @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Pippo Del Bono, une rétrospective Pippo Del Bono. Mais pourquoi ? Installation, performance et film à voir jusqu'au 5 novembre au Centre Georges Pompidou à Paris. Et c'est accompagné d'un livre intitulé « Le don de soi » paru chez Actes Sud. Alors comme vous aimez bien non seulement être perdu, parce que c'est quand même assez séduisant d'être perdu à la manière de Pippo Del Bono, et que vous aimez bien aussi être perché, comme le baron peut-être, d'Italo Calvino, je sais pas, vous aimez écouter du Frank Zappa, que vous avez d'ailleurs intégré dans certains de vos spectacles, Pippo Del Bono. Comment est-ce qu'on peut écouter et partager son rock expérimental de malade mental sans faire peur à la planète entière?
Moi, Frank Zappa, pour moi, c'était un maître, comme un bobo, parce que du moment où on m'a obligé à écouter sa musique, c'est une musique très complexe, mais très pleine de toutes les choses. Zappa pourrait entrer dans tout le monde, il pourrait entrer dans la rock, dans le punk, dans le pop, dans tout, dans la classique, dans l'opéra, tout. Zappa, il avait cette capacité, pas faire des covers, entrer dans tout le monde inimaginable de la musique. C'est pour ça, c'est comme une fleur qui s'ouvre partout, tu peux écouter tout. Tu dis, c'est qui ça? Zappa. Ah, Zappa.
He used to be very kind in his own crude way. He wasn't always like I wanted him to be. He wasn't smart, he wasn't handsome either, but he thrilled me when he thrilled me. And I've never loved a monster quite like he. Be that way.
Avec Facebook, Twitter et en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Kat Janine. À demain.